RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Joël Dagosséry, coach de vie, le professeur d'histoire géographie Kevin Bossuet, Bruno Poncet qui est avec nous, il est cheminot. On a tout à l'heure le GG 7 et match à 11h20. La France doit-elle choisir ses immigrés? Nous devons dire qui nous voulons et qui ne nous voulons pas. C'est ce qu'a dit Madame Borne, la première ministre, lors du débat sur le coup d'envoi du débat sur l'immigration. La France doit-elle choisir ses immigrés? On a une équipe qui dit oui, Kevin et Joël, équipe qui dit non. Bruno et Olivier, venez aborder le sujet, discuter, partager, départager les équipes dans ce match tout à l'heure à 11h20, les amis. Tiens, monsieur Poncet, Bruno Poncet, oui, on peut te faire écouter quelque chose, attends d'écouter la Marseillaise, c'est ça.
Ah oui.
Queen of the Stone Age, c'est ton t-shirt. Go with the flow, c'est voilà.
En fait, vous faites plaisir, les gars. Plaisir.
Ouais, en fait, c'est votre émission, quoi. C'est votre
projet. Mettez-moi du sardou, on va les récupérer.
Le temps, on a eu Dassin, c'est bon.
C'est vrai qu'à chaque fois que t'es venu, t'as eu de la chance. T'as eu Dassin, tu as eu Sardou.
Ah ouais, souvent. Hein.
Il me semble que t'as eu du Beko, t'avais pas eu du Beko.
Il y a eu un quiz Reggiani aussi.
Alors j'étais pas là, moi. C'est dommage. Même année, ça m'a dit que j'avais raté ça. J'ai dit, ouais, je m'en suis pas remis.
Allez, on y va justement, parce qu'on va parler de la Marseillaise à l'école.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
C'est vous qui avez souhaité que l'on évoque ce sujet dans les GG, dans les grandes gueules, avec Kevin, Bruno et avec Joël. Le maire Les Républicains de Marignane a écrit au ministre de l'Éducation nationale et il lui dit, voilà, si on veut faire retrouver aux jeunes l'esprit civique, l'esprit patriotique, laissez-moi ou mettez en place la levée des couleurs le lundi matin. On hisse le drapeau et on chante la Marseillaise.
Et on porte l'uniforme. En fait, il demande trois choses. Le port de l'uniforme, le chant de la Marseillaise et la levée de drapeau dans son école publique. Il s'appelle Éric Lodissès, le maire de Marignane, maire d'hiver droite. Et donc, il explique dans cette lettre envoyée au ministre de l'Éducation qu'il veut expérimenter ces mesures. Il pense que ces règles, si elles étaient appliquées, porteraient leurs fruits sur le moyen terme et pourraient contribuer à insuffler chez nos jeunes un esprit républicain et patriotique. C'est mon intime conviction, dit-il. Je trouve normal d'inciter les élèves à apprendre la Marseillaise. Même chose pour le drapeau qui doit être respecté. Cela révélait le sentiment d'appartenance quant à l'uniforme. C'est une façon de s'inscrire dans la ville. Je pense à ceux qui n'ont pas les moyens d'être vêtus de marque de la tête aux pieds. Je pense aux victimes de raquettes. Je veux réduire les inégalités. Port de l'uniforme, Marseillaise à l'école, élevé drapeau, est-ce qu'il a raison le maire de Marignane?
Alors, qu'en dites-vous au 32-16? Poncet.
C'est très américain ce qu'il fait là. Et c'est vrai que les Américains, enfin, le peuple américain, c'est l'endroit où il y a le moins de tueries de masse, il y a moins de trucs d'armes. Donc c'est vrai que ça redonne du civisme aux gens d'avoir ça. Moi, autant que tu apprennes la Marseillaise dans tes cours d'histoire, parce que quand tu parles de la Révolution, ou après la Révolution, ou que tu parles après, tu vois, c'est l'hymne national.
Surtout que c'est l'hymne national, oui.
Voilà, tu puisses l'apprendre comme ça. Mais d'imposer ce genre de truc tous les matins, le lever du drapeau, mais c'est un délire complet. Moi, je comprends pas. On arrive dans un truc, là. Alors après, l'histoire des blues, sur le côté social et tout, ça pourrait presque être entendable, mais bon, ça me paraît tellement détourné de son objectif. Je sais pas, ce monsieur doit vivre dans les années 30. Peut-être, mais il y a un vrai sujet. Moi, j'arrive pas à comprendre que ça soit ça sa priorité. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a tellement un manque de moyens, il y a un manque de professeurs. Les professeurs arrivent même pas à boucler leur programme et tout. On avait retiré les maths, on va les remettre. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Et là, on est en train de nous parler de l'hymne national comme si ça allait sauver le monde. Ils sont fous. Hein.
Alors, Kevin, Joël.
Oui, non, mais Kevin. Alors peut-être que ce maire est un petit peu excessif. C'est vrai que la levée du drapeau tous les lundis. Bon, mais après, je le rejoins par contre sur la Marseillaise. Je pense qu'il est important que les jeunes français connaissent la Marseillaise, connaissent l'histoire de ce chant. C'est quand même notre hymne national et on a ce devoir-là. Le fait qu'ils puissent également, à certains moments de l'année, chanter ce chant qui est un chant patriotique, je trouve ça également bien parce que finalement, on crée quelque chose de commun, on crée un symbole commun autour duquel on va se rassembler et je trouve ça formidable. D'ailleurs, moi, mes élèves connaissent plus la Marseillaise le plus souvent. J'ai des élèves d'origine immigrée, j'ai des élèves... non mais je le dis, parce que souvent c'est pas naturel, ils connaissent souvent l'hymne de leur pays d'origine et l'hymne français. Et ça, c'est, je trouve ça formidable. Quant au port de l'uniforme, moi je suis favorable au port de l'uniforme, puisque ça permet en effet de gommer les inégalités sociales, ça permet de créer un esprit d'établissement et ça permet aussi de marquer une rupture entre l'intérieur des établissements scolaires qui doit être quelque chose de sacré et ce qu'il y a à l'extérieur qui est évidemment la société de manière générale. Donc moi je suis plutôt favorable à toutes ces mesures et d'ailleurs je crois qu'il y a un abonnement d'Éric Ciotti qui avait été adopté sur le fait qu'on devait avoir dans nos salles de classe un drapeau français et un drapeau européen. Moi je n'en ai jamais vu la couleur. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de professeurs, même si on impose ça par idéologie, qui de toute manière ne feront pas apprendre l'hymne national et je trouve ça dommage quand l'idéologie de certains supplante finalement le caractère national de nos programmes.
Joël ?
L'idée, je ne suis pas contre l'idée, simplement ce qui m'agace un petit peu dans cette idée, c'est que, comme l'a si bien dit Bruno, c'est que l'école est malade, elle est malade de profs qui en ont assez, qui ne sont pas bien payés, elle est malade d'un enseignement qui peut être encore, qui date des fois encore des années Gallup, elle est malade de l'ingérence des parents, elle est malade de beaucoup beaucoup de choses, et de moyens financiers, enfin, et la seule idée des politiques, notamment des républicains, c'est d'être toujours dans le symbole. Donc, c'est-à-dire une levée de drapeau tous les lundis matins pour faire quoi ? Pour un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, il n'est pas lié qu'à une levée de drapeau. Il est lié aussi à l'histoire qu'on raconte du pays. Il est lié à la classe politique aussi qu'on a en face de nous. Il est lié à la réussite du pays, à l'influence du pays à l'international. Et c'est ce qu'ont les Américains, justement, au-delà de l'incivisme. C'est ce qu'ils ont, c'est ce qui fait leur appartenance à leur pays. Donc, moi, je voudrais qu'on arrête un peu avec tous ces symboles et qu'on laisse l'école tranquille, qu'on laisse l'école faire ce qu'elle a à faire. Et la Marseillaise, oui, on l'apprend à l'école, comme l'a dit Bruno, dans un cours d'histoire. Exactement. Bah oui, dans un cours d'histoire. Si on peut même la chanter en cours d'éducation musicale. Pourquoi pas? Très bien. Mais qu'on arrête de vouloir créer des symboles avec des levées de drapeaux, etc. Ça se fera quand l'école fera sa mission, quand elle remplira sa mission première.
Moi, je pense que les symboles, c'est quelque chose d'hyper important. Oui. Moi, j'ai entendu beaucoup d'élèves dire « je n'aime pas la France, nique la France, la France est de la merde » parce qu'ils ne connaissent pas ce pays, parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ce pays a apporté beaucoup au monde ou au reste du monde.
Quand tu dis « j'ai entendu beaucoup d'élèves », c'est-à-dire dans la cour, dans ton établissement.
Mais évidemment, il y a un sentiment parfois anti-français qui est important, mais souvent c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est quelque chose qui va être instantané, parce que de l'autre côté ils vont vous raconter que la France est aussi formidable. Et d'ailleurs il y a un truc qui est assez rigolo, c'est-à-dire que souvent les enfants d'origine immigrée, quand ils sont en France, ils se disent fiers d'être marocains, d'être algériens et tunisiens, et quand ils retournent au bled, pour employer l'un de leurs mots, ils se disent fiers finalement d'être français et fiers d'habiter en France. Mais je trouve que les symboles c'est important. Et moi ce qui m'a marqué en tant qu'enseignant, c'est lors de l'hommage à Samuel Paty. Alors, moi, j'ai pas vu des contestations outre mesure, mais ce qui m'a choqué, c'est l'indifférence. L'indifférence face à l'assassinat d'un professeur de la République, parce que souvent les élèves ne savent pas ce que c'est que la République, les élèves ne savent pas ce que c'est que la laïcité, et les élèves ne savent pas, ne connaissent très mal finalement l'histoire de ce chant qui est la Marseillaise. La Marseillaise, c'est un chant profondément républicain, c'est un chant même, je dirais, plutôt de gauche, hein, puisque le but, en effet, c'était d'en finir avec l'ensemble des privilèges. D'ailleurs, quand vous avez dans ce chant l'expression « le sang impur » fait référence au sang des républicains contre celui des nobles et du clergé qui avait tous les privilèges. Donc il faut faire l'ensemble de cette histoire. Et je suis sûr que les gamins sont très demandeurs.
Mais oui, mais tu le fais dans ton cours, ça.
Ben oui, mais
c'est ce qu'il veut à Marianne, c'est qu'il veut qu'on chante chaque jour, que les gamins le chantent chaque jour.
Pas chaque jour.
Tous les lundis.
Mais lors des moments importants de la communauté scolaire.
Il y a eu un retour de la Marseillaise après les attentats. Sincèrement, avant 2015, avant les attentats, la Marseillaise, c'est un truc de facho. À gauche, dans les meetings, ils ne chantaient plus la Marseillaise, ils chantaient l'international, etc. Et c'était finalement un truc que avait un peu pris Marine Le Pen et la droite à leur propre compte. Et puis il y a eu les attentats. Il y a de nouveau un sentiment quand même d'appartenance, d'une fierté nationale. Et on a de nouveau ressorti les drapeaux. C'est-à-dire que le drapeau n'était plus honteux et on mettait les drapeaux aux fenêtres. On a de nouveau chanté la Marseillaise. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les stades, tout le monde la chante la Marseillaise. Les joueurs même chantent la Marseillaise, ce qui n'était pas le cas avant. Platini n'a jamais chanté la Marseillaise de sa vie. Voilà. Maintenant, les joueurs de foot chantent la Marseillaise. Donc on s'est réapproprié la Marseillaise. Je pense que je pense que là, le maire de Marignane, il se trompe de combat sur la Marseillaise. Je pense qu'il n'y a pas, tellement d'enjeux sur la Marseillaise.
Il n'y a pas de problème de Marseillaise.
Je pense que les gens chantent la Marseillaise. Il y a eu, dans le passé, une Marseillaise sifflée, mais c'était des France-Algérie. C'était parce qu'on règle des comptes qui n'ont pas encore été réglés. Mais d'une manière générale, la Marseillaise, elle est respectée aujourd'hui.
Mais Joël a raison. Aujourd'hui, c'est si tu veux être patriotique ou fier d'être français, il faut plutôt donner de bonnes raisons de l'être. Quoi, en fait, là, je sais pas quel sera le parcours de la France en Coupe du Monde, mais tu verras que là, tout le monde se retrouvera derrière des drapeaux bleu, blanc, rouge, à louer, bravo, célébrer la France, le coq, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait rayonner la France dans le monde? C'est
Emmanuel Macron.
Est-ce qu'il y a une marque emblématique française que tout, hormis le luxe, que tout le monde partage dans le monde, une personnalité emblématique française, tu vois, qui est célébrée par partout dans le monde.
L'esprit d'appartenance, il se fait sur deux trucs, sur des gros chocs comme on a eu avec les attentats. Donc là, tu te rassembles et sur des victoires. Tu vois ce que je veux dire?
Et
il y a quelques années, les attentats, c'était vraiment, on avait presque plus que ça. C'est malheureux à dire, mais il y avait plus que ça pour se rassembler et se sentir français avec l'équipe de France. Donc moi par exemple ma fille chante la Marseillaise, elle a appris parce qu'elle supporte l'équipe de France, elle est avec son drapeau, etc. Elle chante la Marseillaise à chaque match parce qu'elle adore le foot. Mais t'as plein de jeunes, je regarde sur les réseaux sociaux là quand l'équipe de France elle joue, mais ils sont tous français, etc. Il y a aucun doute sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a aussi ça, le pays c'est qu'est-ce qu'on fait pour redonner envie aux gens? Il faut un pays qui gagne. Il y a pas que le foot, mais il faut un pays qui gagne, un pays qui donne envie.
Attends, nous sommes avec Émilie au 32-16. Bonjour Émilie.
Bonjour.
La levée des drapeaux à l'école avec la Marseillaise le lundi matin, tous les lundis matins, bonne idée ou pas?
Oui, moi je pense que c'est pas mal. Peut-être plus pour les élèves de primaire.
C'est le cas, c'est pour le primaire.
Voilà. Parce que bon, je vais au lycée, ça va être un peu compliqué, mais pour moi, franchement, moi personnellement, j'ai appris la Marseillaise à l'école primaire, en CM1. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a les paroles qui sont un peu dures, mais après, bon, c'est parti, c'est comme ça, c'est l'hymne national.
Oui, il faut l'expliquer. On va pas refaire les paroles. C'est un chant guerrier. Bah, c'est
ça. Et ça se fait ailleurs. Moi, mon mari est sénégalais, et hier, on avait cette discussion-là, parce que je vous suis en ce moment tous les jours, parce que je suis en congé maternité actuellement. Et il me dit, mais chez nous, merci. Mais chez nous, c'est la base. Hein. C'est la base. On lève le drapeau tous les matins. On chante
au Sénégal.
Oui.
Voilà. Et personne ne reproche aux Sénégalais d'être
nationalistes. Les gamins, ils ont des blouses au Sénégal.
Mais ça, c'est une culture que nous, on n'a pas en France, la culture de
l'uniforme. Il n'y a pas qu'au Sénégal. Moi, j'ai fait pas mal de pays d'Afrique. J'ai été aussi en Haïti. Ils ont aussi des
Et beaucoup aussi de pays anglo-saxons ou de culture anglo-saxonne.
Oui, mais tout va avec. Il y a les drapeaux, il y a la discipline à l'école, il y a l'éducation des parents. En fait, c'est pas uniquement le drapeau. C'est toute la mentalité qui est tournée comme ça.
Et puis le Sénégalais, c'est le peuple le plus gentil du monde. Donc, c'est aussi ça.
Ouais, mais Émilie, aujourd'hui vous avez
Émilie, vous confirmez, votre mari est gentil?
Ah oui, lui c'est un amour. Ouais, ils sont pas
ça, c'est dégueulasse.
Non, lui il est au top. Top.
Aujourd'hui, c'est pour la nouvelle génération, c'est quoi la fierté d'être français? Non, mais c'est surtout ça. Tu te rends compte que tu es dans un pays qui quand même va plutôt bien, qui protège quand même globalement les plus précaires, qui te permet d'avoir accès à bon nombre de choses.
Oui, mais
globalement, on est quand même dans un pays où il fait plutôt bon vivre. Mais la fierté, c'est pas ça.
La fierté, c'est pas ça.
Je veux dire, à la limite, quand t'es allemand, aujourd'hui, partout dans le monde, tu vois tes bagnoles, tu vois tes marques partout.
Je suis pas sûr que les Allemands soient fiers aujourd'hui.
Je ne sais pas, mais tu peux ressentir aussi aujourd'hui, par rapport à ton industrie, une fierté, tu vois. Mais là, aujourd'hui, quelle est la fierté française?
L'Oréal.
Non, mais tant vous parliez de Mbappé. Enfin, si aujourd'hui notre fierté à nous, fierté d'être français, moi déjà, c'est un truc qui me sent un peu. C'est pas un concept que je connais, mais bon.
Pourquoi
je sais pas.
T'es internationaliste.
Oui, et puis moi,
t'es contre les frontières, contre les nations.
Voilà. Et puis moi, je suis fier d'être un homme, d'un être humain. Et si je me comporte comme un être humain, je serai encore plus fier. Mais voilà. Mais par contre, un truc, moi, c'est quand on pense que la fierté de la France ne peut être que le foot ou truc comme ça.
Bah non, parce qu'il y a que ça pour l'instant.
Ça serait de montrer un modèle social juste où qu'un gamin qui naît dans un quartier pauvre puisse arriver un jour à être président de la République. Oui. Moi, je serais fier de ça.
Oui.
Et aujourd'hui, qu'on me dise que Mbappé, tant mieux qu'Mbappé, c'est un gamin qui vient d'un quartier, qui vient de Bondy. Maintenant, c'est le plus grand footballeur.
Mais on raconte plus d'histoires.
Le sujet, c'est qu'on soit fier de la France, que à un moment donné, ce que la France était forte avant, c'est-à-dire c'est ce côté, l'échelle sociale. Je trouve que l'ascenseur social, ça fait longtemps qu'il est cassé, qu'on n'arrive plus à monter par les marches.
Non, mais il n'y a pas. Tu racontes
merci,
plus d'histoires.
Merci, Émilie. Merci d'avoir été avec nous. Pardon, je t'ai coupé.
Non, pardon. Joël. Non, je disais que la France raconte plus d'histoires. Tu vois ce qui s'est passé avec Obama. Mine de rien, les États-Unis nous ont raconté une histoire. Donc, à chaque fois.
La tête de Kevin Bossuet.
Non, mais peu importe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais il y a
Trump pour nous en raconter.
Mais aussi, mais je veux dire. Oui, mais aussi.
C'est deux visages de l'Amérique.
Mais complètement. Mais il y a un visage. T'as un pays qui te raconte une histoire, t'en as un autre qui est arrogant et qui s'appuie sur son histoire passée et qui ne raconte plus de nouvelle histoire. Bah, si, je t'assure. On est encore assis sur le général de Gaulle. Donc, excuse-moi. Voir Colbert.
Le fait qu'on fasse référence au général de Gaulle encore en 2022.
Bah oui.
Parce qu'on a plus que ça.
Merci,
on a que ça comme référence.
Merci, Emilien. Ouais, on va accueillir notre gagnant. Maintenant, c'est Sébastien qui est avec nous. C'est le moment de vérité, mon cher Sébastien. Bonjour.
Le coffre.
Allô.
Oui, salut Sébastien.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Bonjour Sébastien.
Ça va Sébastien, vous avez envoyé coffre par SMS, vous avez été tiré au sort. Donc Sébastien, vous gagnez déjà la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et les deux volants Switch. Voilà, ça c'est gagné.
Ouais.
Est-ce qu'on tente le coffre avec les chèques du Père Noël qui vont de 500 à 2500 euros? Peut-être la PS5 ou la PlayStation classique. Est-ce que vous le tentez ou pas?
Mais je me dis, elle n'est pas encore tombée, je crois, chez vous.
Non.
Eh bien, allez, je la tente.
Hey.
Ah ouais, c'est bien, Sébastien, vous êtes joueur.
Ah, il faut être joueur.
Bravo.
Je vais chercher le coffre, pardon, hein, parce qu'il était planqué sous la table.
Il est balèze.
Studio. Ah ouais, non, mais il est lourd.
C'est un vrai coffre.
On plaisante pas. 12 05 75 728 63 dièse dièse général de Gaulle marseillaise bleu blanc rouge. Alors attention, j'ouvre.
Alors attention.
Allez.
On a bien fait d'insister. C'est la PS5
aujourd'hui. Génial.
Ouais.
Qu'un magnifique cadeau, parce que je crois qu'on a du mal à la trouver là.
Ah ouais, mais c'est bon, moi je la garde, ça y est.
La PS5, c'est pour vous, mon cher Sébastien. On est content dans les GG.
Ah bah voilà, c'est tombé. Enfin bravo.
On a ouvert le coffre pour
la meilleure des raisons. Direction.
Voilà. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir.
Félicitations Sébastien, et on rajoute un t-shirt des grandes gueules.
Ah c'est gentil. Je passe le bonjour à Nolan qui me regarde par la fenêtre. Je pense qu'il avait un peu les boules. Tu vois, salut Nolan.
C'est qui Nolan?
C'est mon collègue de travail. Je suis à la cuisine. Mon collègue de travail.
On est jaloux là.
Vous êtes au boulot,
la radio.
Vous êtes au boulot, là?
Ouais, au boulot.
Quoi?
Charpentier, là, je suis à l'atelier, on fabrique.
D'accord.
On fabrique des poteaux, tout ça.
Et vous nous écoutez avec l'oreillette, votre portable?
Ah non, on a la radio à l'atelier, là.
À l'ancienne?
Cool, ça.
Salut l'atelier! Ouais! Big up, dédicace à l'atelier. Maintenant, il faut leur dire bonjour et nous écouter.
Dans les ateliers, on les écoute beaucoup, hein.
Ouais, c'est vrai, hein.
Ah, oui,
comment s'appelle votre entreprise charpentier?
Casté MCZ.
Et vous avez du boulot là? Vous avez le carnet de commandes rempli?
Ouais, jusque, je pense facile l'année prochaine, fin d'année prochaine. Ouais.
Et vous avez arrivé à trouver de la main-d'œuvre?
Non.
Ouais, ça, c'est toujours le problème. Ouais.
Ça vient, ça repart.
Pourtant, charpentier, c'est un beau métier.
Merci, merci d'avoir été avec nous, Sébastien. Félicitations pour la PS5. Vous pouvez narguer tous vos collègues maintenant, Nolan en particulier. Payez-lui un coup à boire quand même à midi, quoi, un petit apéritif.
Ça va le faire.
Il y a un t-shirt à Nolan.
On pourrait jouer tous les deux.
Ouais, mettez-lui une branlée à FIFA 23.
Je pense que ça va se passer comme ça. Ouais. On va rejoindre sur le live et puis on va faire des trucs.
Ouais. Allez, salut Sébastien. Dans un instant, le GG7 et match. La France doit-elle choisir ses immigrés, oui ou non?
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui l'équipe Bruno Poncet, Olivier Truchot dans le GG7 et match face à Joël Dagosséry.
Ah, c'est ça.
Si. Kevin et Joël qui disent oui, Bruno et Olivier qui disent non. Oui,
ça va bien, Joël.
Tu sais où Joël. Tu es dans les grandes gueules depuis 9h ce matin, Joël.
Joël.
Hein? C'est l'heure du GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
On avait perdu. Tu sais quoi, Joël, il faut la réveiller.
Tu veux mon zizi?
Oh, bravo.
Oh là là.
Tu pues du cul.
Alors,
qu'est-ce que c'est?
Mais si, on va te raconter parce que t'as raté cet épisode.
Attends, c'est le titre de chanson d'un chanteur qui vient d'avoir.
De Francky Vincent.
Francky Vincent.
C'est meilleur. Qu'est-ce qu'il fait dans ta bouche?
Tu veux mon zizi?
J'ai énuméré sur BFM TV les titres de Francky Vincent.
Bah oui. Tu connais Francky Vincent?
Ah oui, ça je le connais. Oui, oui, j'ai entendu Olivier sur BFM. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire.
Mais tu pourrais peut-être le faire étudier à tes élèves maintenant qu'il est rentré.
Vous voulez que je me retrouve en prison, c'est ça?
Oui, t'imagines, tu dis aux élèves, voilà les titres des chansons de Francky Vincent.
Tu veux mon zizi? Tu pues du cul?
Et là, monsieur Bossuet, s'il vous plaît,
ouais, mal l'histoire.
Allez, les enfants, aujourd'hui on va apprendre, tu veux mon zizi.
Non, on n'est pas bien là.
Bon, allez, on y va pour juger cet match. De quoi s'agit-il? Il s'agit du projet de loi immigration. La France doit dire qui on veut, qui on ne veut pas accueillir. C'est ce qu'a défendu Madame Borne, Elisabeth, première ministre. C'était à la tribune de l'Assemblée nationale. Le texte sera discuté au Sénat la semaine prochaine. Ensuite, il sera transmis au Conseil d'État à la fin de l'année. Et puis, il sera officiellement présenté en Conseil des ministres en début d'année, entre fin janvier et début février. Et les débats arriveront au Parlement au printemps. Donc, la France doit-elle choisir ses immigrés, oui ou non? La parole à Monsieur Bossuet qui dit oui. 60 secondes, c'est parti.
Bah, évidemment que la France doit pouvoir choisir ses immigrés, c'est une question de souveraineté nationale. Enfin, les Français sont quand même en droit de dire qui ils veulent accueillir ou pas sur leur territoire. Il est normal, en effet, que nous puissions accueillir des gens qui parlent français, ou du moins qui des gens qui soient en accord avec nos valeurs, avec notre conception, par exemple, des femmes, notre conception de l'homosexualité, etc., etc. Et de manière beaucoup plus générale, c'est aussi dans l'intérêt des immigrés, de pouvoir choisir qui on décide d'amener sur notre territoire ou pas. Parce que si c'est pour accueillir toute la misère du monde et de retrouver ces immigrés ensuite, porte de la chapelle, en train de tomber dans le crack ou en train de vendre de manière illégale des paquets de cigarettes, ce n'est pas une vie non plus. Donc à un moment donné, je crois que tous ces discours sans frontiéristes, tous ces discours multiculturalistes, ce n'est plus possible. Nous devons retrouver la gestion de nos frontières et en effet se dire combien d'immigrés on peut accueillir, mettre en place un quota et le faire sur des questions de valeur et si ces immigrés sont capables de travailler ou non.
Monsieur Poncet.
Ah bah, je pense que c'est le ministre de tutelle de Kevin qui ne doit pas être content. Parce que Pape, sinon, il ne serait jamais arrivé en France. Si on t'écoute. Hein. Bah ouais. Mais moi, personnellement, déjà, je ne comprends pas pourquoi c'est un sujet. On doit accueillir tout le monde, c'est comme ça. Les gens, ils viennent. On est dans une période en plus où, malheureusement, de beaucoup de pays, entre la guerre, entre les conditions climatiques et tout, t'as de plus en plus d'immigration parce que forcément, les gens fuient des situations de crise qu'on a, nous, pays occidentaux, provoquées et causées. Hein, faut pas oublier non plus. Moi, je pense que les frontières ne doivent pas exister. Je pense qu'on peut accueillir tout le monde. Il faut arrêter sur le délire de dire qu'il n'y a pas de site sans France. Si tu fais, si les gens sont chez toi, eh ben, tu peux, à un moment donné, tu as de la main-d'œuvre, et tu la payes correctement. Hein. Tu nous fais pas une main-d'œuvre de sans-papiers comme dans beaucoup. Là, j'ai vu qu'en plus, il y a un truc qui est sorti sur les chantiers des JO avec beaucoup de gens sans-papiers qui travaillent. Je trouve ça honteux. Enfin bon, une fois de plus. Mais moi, je pense réellement que la force d'un pays, c'est son métissage. La force de notre pays, c'est notre métissage. La force de notre pays, c'est d'avoir été, enfin, de cueillir les gens qui viennent et qui viennent avec, et qui viennent pas alors avec envie. Et Kevin a raison. Les gens viennent pas pour vendre du crack et vendre des clopes, des fausses clopes devant la station de métro La Chapelle. Je pense que les gens en France viennent avec cette image de la France, et l'Eldorado et tout. Malheureusement, quand ils arrivent là, ils tombent sur un os parce que c'est plus du tout ça. Mais parce que aujourd'hui, on ne sait pas les accueillir, on les prend comme des ennemis de la nation, alors que c'est des gens qui viennent là et qui sont en plus heureux d'arriver là parce qu'ils fuient des situations tellement en crise que quand ils arrivent chez nous, ils sont heureux d'être là. Donc, eh ben, donnons les moyens de trouver du travail, donnons leurs moyens parce qu'en plus, ils seront contents de travailler, ils seront heureux de s'investir dans le pays. Et la plupart des immigrés qu'on a accueillis sur les dizaines de dernières années, eh ben, c'est une réussite pour beaucoup. Et là, je vois les gens qui s'extasient sur le foot. Et malheureusement, il n'y a pas que ça, hein, heureusement d'ailleurs. Mais il n'y a pas que le foot. Et on a quand même, grâce au métissage, on a une France plus forte et plus belle.
Alors.
Moi, je trouve que de dire que la force d'un pays, c'est le métissage, c'est aussi, de dire ça bête que de dire que la force d'un pays, c'est la race pure, etc. Enfin, je veux dire, ça a rien à voir dans la force d'un pays d'être hyper métissé ou hyper pur, etc.
Vite, enfin,
non, c'est pas ça. Enfin, je veux dire. Moi, je voudrais pas choquer des gens, mais la France choisit déjà son immigration. Alors, je ne sais pas ce qu'Elisabeth Borne a raconté et à nous faire croire qu'en fait, la France subit toute l'immigration. Ce n'est pas vrai. La France choisit son immigration. Le seul souci, c'est qu'ils ne veulent pas dire, c'est que quand ils disent immigrés, ils veulent parler de population subsaharienne ou autre. Mais sinon, la France choisit son immigration. Tu vois, mon chéri, là, il est avocat et il s'occupe justement des personnes qui veulent venir habiter en France ou partir habiter aux États-Unis. Et la France a ses critères pour accepter ou non quelqu'un sur son territoire. Des critères de pays, déjà, des critères de revenus, des plein de critères. Et la France, vraiment, on nous raconte n'importe quoi quand on nous dit que la France ne choisit pas son immigration. C'est pas vrai. Ce qui manque, c'est la transparence. C'est qu'elle ne le dit pas ouvertement comme le Canada peut le faire, ou qui publie carrément ses listes de personnes qu'elle a envie d'accueillir sur son territoire. C'est la transparence. Mais sinon, à part ça, la France choisit et elle doit le faire. C'est normal, effectivement, de décider qui tu veux accueillir sur ton territoire. Et en plus, à côté de ça, tu dois faire une vraie politique d'accueil. Et là, on peut dire qu'il n'y en a pas. Hein, je suis désolée. Une vraie politique d'accueil et d'intégration, contrairement à ce qu'a fait l'Allemagne quand elle a décidé d'accueillir les immigrés qui venaient de Syrie, etc., qui a mis en place une vraie politique d'intégration, ça, on en manque. Donc, oui, elle doit le choisir et elle le fait déjà.
Non, ça, c'est ce que dit Joël, est faux.
Ah bon ?
Maintenant, le regroupement familial, on ne choisit pas. C'est le regroupement familial et c'est la principale filière d'immigration légale de notre pays.
Mais c'est un choix de faire le regroupement familial.
Oui, d'accord, mais le regroupement familial, tu ne choisis pas tes immigrés. Bah, c'est la famille de la personne qui est chez nous qui vient. Donc,
c'est un choix.
C'est la première filière d'immigration en France. C'est pas l'immigration économique, c'est le regroupement familial. Mais moi, c'est un non, mais c'est pas le même nom que Bruno Poncet. Moi, c'est un non parce que on a beau vouloir le faire, et ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on va choisir nos immigrés, et on le fait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, dès qu'un immigré, un étranger arrive sur notre territoire, il est sûr d'y rester. Il est quasiment jamais reconduit aux frontières. Donc, en fait, comme on peut pas dresser des murs de 10 mètres de haut, bah, forcément, on peut rentrer en France assez facilement. Parce qu'il y a Schengen, parce qu'il n'y a plus de frontières aujourd'hui entre les pays européens. Il suffit qu'ils arrivent à passer par la Grèce et l'Italie, ils arrivent chez nous. Et une fois qu'un étranger est chez nous, il ne sera jamais inquiété.
Oui,
alors le problème, après, il rentre dans une situation un peu compliquée parce qu'il va pouvoir quand même travailler, mais il n'a pas de papier, etc. Ouais. Donc c'est là où il faut organiser les choses. Mais c'est vrai que là, je rejoindrai Joël, c'est complètement idiot de dire que la mixité, c'est mieux que la non-mixité. Non, c'est les histoires des pays. Le Brésil est un pays créole, d'accord, mais la France, c'est pas notre histoire. La France, on a des vagues d'immigration, mais on est des immigrés qui se sont assimilés, qui arrivaient sans parler français d'ailleurs, parce qu'on dit, il faut savoir, non, quand l'Italien arrivait chez nous, le Polonais arrivait chez nous, il savait pas parler français. Mais il apprenait le français à l'école, et l'école d'ailleurs servait à intégrer ces populations. C'était plus simple quand on avait cette immigration européenne. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que c'était à l'époque une immigration de travail, donc ils s'intégraient par le travail, et les enfants à l'école. Aujourd'hui, on a une immigration de gens qui vont pas forcément travailler, qui errent chez nous, etc., qui vont après parfois sombrer dans la délinquance. Et c'est là où on a un problème, parce qu'on ne sait pas quoi en faire.
Mais sur le regroupement familial, tu vois, le problème, c'est qu'Elisabeth Borne nous dit ça comme si elle ne faisait aucun choix. C'est un choix. Le choix, c'est pas forcément de dire non.
C'est une décision du Conseil d'État dans 70.
Oui, mais donc c'est la France a choisi de faire le regroupement familial comme il est fait actuellement. Et le fait de dire que c'est pas qu'on le subit, c'est pas vrai. C'est un choix délibéré. On pourrait le faire autrement. On pourrait tout à fait faire un autre choix. Le choix, c'est pas simplement de dire oui. Le choix, c'est oui et non. Et donc, le regroupement familial, comme il est fait actuellement, c'est un choix de la France. Donc, quand Elisabeth Borne nous dit qu'on devrait choisir, on choisit déjà notre immigration. Et si le regroupement familial se fait comme il est aujourd'hui, c'est un choix de la France. Donc, elle arrête de faire penser aux Français que, en fait, c'est pas notre faute. Si, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ta faute.
Si on pousse le raisonnement, comment est-ce qu'on choisit et qui on choisit alors?
Comment on choisit des blancs, les Ukrainiens, les Ukrainiens à bras ouverts, et puis derrière,
tu vois
des Érythréens, tu dis, ah là, mon Dieu, ça va être des assassins.
On a accueilli des réfugiés de guerre.
L'Érythrée, c'est pas des réfugiés de guerre, ils sont noirs.
Il n'y en a pas beaucoup chez nous.
C'est juste sur la côte. T'as vu, c'est la couleur de peau.
Ah non, mais en France, je trouve qu'on est vachement hypocrite. Tu as la raison.
Il faut que ce soit raciste.
Non, pas tous, mais.
Non, pas raciste, mais.
Kevin.
Hypocrite surtout.
Tu souffles.
Non mais vas-y. En fait, non, mais je vois pas en quoi les critères, les critères raciaux, ça n'a aucun sens. Enfin, on choisit pas les gens en fonction de leur couleur de peau. Tu parlais tout à l'heure de Pape Ndiaye, mais quelle réussite! Mais c'est formidable. Genre, quelqu'un qui a pu faire ses études en France, qui avait fait un grand travail d'historien, qui est aujourd'hui ministre de la République, c'est formidable. C'est le cas également de Rachida Dati ou encore Ramayad. Enfin, mille fois. Donc, si on accueille des gens comme ça et qu'on peut, en effet, les sortir de la misère et en faire des gens qui ont réussi, je trouve ça.
Misère, son père était.
Non, mais je suis d'accord. Mais je trouve ça très bien. Ouais. Après, par contre, il faut aussi que les gens qui arrivent cherchent à s'intégrer, partagent nos valeurs, partagent notre culture. Quand vous voyez une partie de l'immigration afghane, on peut pas dire en effet que beaucoup d'Afghans partagent nos valeurs vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de l'homosexualité, etc. Ça veut pas dire que tous les Afghans sont homophobes ou tous les Afghans sont misogynes, mais on voit bien que on partage pas le même idéal et pas forcément les mêmes valeurs. Donc le tout, c'est quoi? C'est d'accueillir des gens que l'on peut intégrer, renouer avec l'assimilation républicaine, des gens qui sont là en effet pour travailler. C'est ça, c'est là-dedans que l'on réussira. Et pour revenir sur ce que disait Joël, en effet, c'est un choix. Peut-être le regroupement familial, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de maîtrise dessus. Sous couvert du regroupement familial, parfois, on accueille des gens, par exemple, qui sont dans l'islamisme, qui sont dans l'islam radical, et ça pose problème. Le problème, c'est pas d'arrêter ou d'en finir avec l'immigration. Le problème, c'est de choisir aussi bien dans l'intérêt de ceux qui accueillent que dans l'intérêt de ceux qui arrivent. Moi, j'en ai marre de voir des gens qui arrivent, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la drogue, qui ne savent plus quoi faire à part tomber dans la délinquance. Ça, c'est pas normal, et on y arrivera si et seulement si on choisit qui on accueille.
Eh bien, on va continuer la discussion dans un instant avec vous au 32-16. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit choisir ces immigrés? C'est ce qu'a dit Madame Borne. Hein. C'est sa phrase. La France doit pouvoir choisir qui elle fait venir, qui elle accueille, qui on veut ou qui on ne veut pas accueillir. Une équipe oui, Kevin et Joël. Une équipe non, avec Olivier et Bruno. Où en est-on dans la consultation? Est-ce que l'avantage est au non? Est-ce que l'avantage est au oui? Réponse dans un instant.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On est en pleine discussion dans les GG, dans les grandes gueules. On commente et on en a fait un match, un GG 7 et match, jusqu'à dit Madame Borne à la tribune de l'Assemblée nationale sur la France qui doit choisir ses immigrés, doit pouvoir dire qui elle veut accueillir ou pas. C'est dans le cadre du projet de loi sur l'immigration. C'est Mohamed qui va en parler avec nous dans un instant. Le temps de passer par la consultation. Alors l'équipe, oui, on doit pouvoir choisir ses immigrés. Non, au contraire, parce que c'est pas réalisable, c'est pas faisable concrètement. Où en est-on? Attention, équipe oui ou équipe non, qui domine? On a une petite idée, mais c'est de savoir l'écart, en fait. Ouais, 88%, 88-12.
Voilà.
La France doit pouvoir choisir ses immigrés.
C'est
l'équipe Joël, Kevin.
Moi, je dis, la France ne peut pas choisir ses immigrés. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité à le faire.
C'est pas faisable.
C'est pas faisable. Parce que, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on nous promet qu'on va le faire. Je me souviens que Nicolas Sarkozy voulait une immigration choisie. Vous vous souvenez, hein, on débattait là-dessus. Donc, c'était quoi, avant 2012, hein.
Ouais.
Voilà.
2007.
Je pense que si on reprend les discours de Chirac, on a dû l'avoir aussi. Donc, en fait, on voit bien que ce n'est pas faisable. Parce que notre pays est ouvert et on en...
Alors, on a un ingénieur territorial avec nous, c'est Mohamed. Bonjour Mohamed.
Ouais, bonjour.
Vous avez choisi l'équipe non, Mohamed.
Ouais, j'ai choisi l'équipe non pour deux raisons. C'est-à-dire, je m'explique. Bien sûr, dans une situation idéale, et si les enjeux chantaient, on pourrait choisir, mais ça n'existe pas, hélas. L'idée générale, c'est qu'on a une démographie qui est en berne. C'est-à-dire qu'on fait moins de gosses par couple à l'heure actuelle. Et donc, effectivement, d'un point de vue démographique, tout notre modèle social repose sur la démographie, c'est-à-dire les retraites, les assurances, etc. Mmh. Et donc, on a besoin de 109. Même qu'on n'aime pas, si on ne fait pas de gosses, il faut bien chercher les gens ailleurs. Ça, c'est petit 1. Petit 2, choisir ces immigrés, c'est quoi? C'est piller les pays de leurs ressources naturelles. C'est-à-dire, je prends les médecins, je prends les ingénieurs, je prends les pharmaciens, les chercheurs, etc., etc. Ça s'appelle du pillage. Donc, non, ces pays, ils ont peut-être besoin aussi de leurs forces vives. Donc, quelque part, on peut pas choisir comme ça.
Beaucoup de médecins et d'ingénieurs, ils viennent
mais
déjà.
Oui, c'est
parce
déjà
qu'ils n'ont pas de débouché dans leur pays, Mohamed.
Non, mais d'accord. Ils viennent déjà parce qu'effectivement,
l'offre n'est
pas disponible parfois, etc. Mais après, on s'étonne après que ces pays n'aient que de la misère à nous proposer. Donc peut-être qu'il faudrait inverser la tendance.
Je suis d'accord avec vous. On ne devrait pas se féliciter d'être obligé de faire venir des médecins. Parce que ces pays ont besoin de ces médecins.
Et puis après, on accueille des médecins, des étudiants pour les former. Après, ce sont ces derniers qui ne veulent pas repartir, en fait. On n'est pas responsable de ça parce qu'ils estiment que la vie est plus facile en France. Moi, je suis d'accord avec vous. Dans l'idéal, il faudrait en effet que ceux qui sont formés sur notre sol repartent dans leur pays d'origine pour en effet développer leur pays d'origine, c'est sûr.
Tiens, mais Mohamed, quel est votre parcours personnel, vous, Mohamed ?
Personnel, si l'immigration était choisie, je ne serais pas là. Donc voilà, mon père était maçon. Bon, après, j'ai fait des études, je suis devenu ingénieur, j'ai passé des concours dans la fonction publique, je suis devenu ingénieur territorial, ingénieur en chef à l'heure actuelle.
Pourquoi vous ne pas là ?
Ma femme.
Mais attendez, je vais vous poser la question.
Pourquoi vous ne seriez pas là ? C'est ça qui est intéressant.
Ça veut dire que mon père ne savait ni lire, ni écrire, ni compter et qu'il ne parlait pas français.
Mais l'immigration choisie, c'est pas uniquement des ingénieurs et des médecins. Je suis désolée. Dans les années 70, les usines Renault étaient remplies d'immigrés. C'était de l'immigration choisie aussi de faire venir des personnes de l'Afrique subsaharienne pour travailler chez Renault, chez Peugeot. Il n'y a pas que des ingénieurs.
Mais c'est ce que veut faire Darmanin. Quand Darmanin dit, il y a le gentil, le méchant. Le gentil, c'est celui qui va aller dans les cuisines, sur les chantiers, dans les métiers en tension, parce qu'on ne trouve plus. C'est ça, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc,
ça a toujours existé, ça.
À un moment donné aussi, il y a un troisième truc dont on ne parle pas, c'est qu'on a été, hélas, enfin, tant mieux, pas hélas, mais on a été un empire. Un empire bon, qui a perdu ses colonies, etc. Et donc, on a une histoire, je veux dire, indélébile et un cordon qu'on ne pourra jamais couper avec l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne et l'Afrique francophone d'une manière générale. Donc, quelque part, on sera toujours dans cette situation qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire son deuil de ce genre de truc. Alors, l'idée, c'est de mieux accueillir les gens, de bien les former, et aussi de développer les pays, de rentrer dans une politique de co-développement plutôt que de dire je prends les bons et les pas bons, vous voyez ce que je veux dire.
La vraie question, Mohamed, c'est que on s'aperçoit, c'est quand on arrive à la deuxième, voire la troisième génération, et que ça se passe pas bien. Et là, on comprend pas parce que c'est des gamins qui sont nés en France, qui sont français, qui ont été à l'école française, etc. Et il y a un problème d'identité et autres. Donc là, on se dit quand même qu'on a loupé quelque chose.
Identité, non, mais attendez, l'école française. Bon, j'en suis fier d'en être, mais comme vous avez dit, j'ai 44 ans. Et à l'époque, on enseignait des choses plutôt pas mal. Quand je vois les cahiers d'école de mes gosses là, à l'heure actuelle, c'est une honte conventionnelle. Je trouve que le niveau, c'est vachement affaissé. Oui. Donc, à un moment donné, si vous voulez bien former les gens, il faut avoir déjà une bonne école et une bonne, une bonne
structure. On est d'accord.
Donc, à un moment donné, ce job-là, c'est pas dû uniquement au fait qu'ils soient immigrés et qu'effectivement, leur seul référentiel, ça soit le tonton du bled, mais que leur référentiel, ça devienne l'école et qu'on apprenne des choses intelligentes à l'école.
Mohamed, d'accord, mais question quand même. Vous avez grandi de quel côté, Mohamed ?
C'est-à-dire ?
Vous avez grandi en cité, dans des bars d'immeubles ?
Non, j'ai grandi dans un quartier populaire, mais à Paris, c'est-à-dire dans le 19e.
D'accord. Mais je vous dis ça parce que, justement, aujourd'hui, dans le processus, on dit, regardez ce qui se passe, c'est au-delà de l'immigration, maintenant, c'est la communautarisation des quartiers, c'est-à-dire que vous avez des milliers de personnes en fait qui vivent entre elles sans être dans le modèle que vous défendez aujourd'hui. Et donc on est plus, vous voyez, on parle de communautés maliennes qui vivent entre maliens avec des coutumes maliennes et qui sont plus dans.
Très bien tout cela.
Ah ben voilà.
Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'aussi l'État est fautif, c'est-à-dire que l'État a baissé les bras. À un moment donné, si vous baissez les bras, que vous faites pas la politique du hussard, c'est-à-dire de tirer les meilleurs gamins. Pour en faire des bons citoyens, essayer de former les jeunes au maximum, etc. Que vous bazardez tout ça dans un coin et que vous mettez le mouchoir dessus, à certains moments, ça commence à déborder. Et c'est le cas, certes.
Exactement. D'ailleurs, le plus grand des symboles du renoncement, c'est que Pap Ndiaye, qui a bénéficié de ce parcours, a passé ses enfants où ?
Dans une école privée,
il y était.
Si j'avais des enfants, je ferais la même chose.
Je ferais la même chose. Un aveu d'échec de notre système. Lui-même a fait le constat qu'il fallait qu'il passe.
Mohamed, vous avez des enfants, Mohamed ?
Oui, j'ai des enfants.
Ils sont dans le public ou dans le privé ?
Alors, j'ai eu la chance d'habiter un quartier plutôt sympa. J'ai habité à Rueil-Malmaison.
Oui, oui.
Et du coup, mes gamins étaient plutôt bien formés par l'école publique. J'ai eu de la chance. Il n'y a pas de problème. Okay. Là, j'ai mon fils qui passe une licence en cuisine. J'ai ma fille qui est en école d'archi et la dernière qui passe son bac. Bon, très bien, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'idée générale, c'est qu'à un moment donné, il faut reprendre, on va dire, les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'école, l'école et encore l'école. Voilà. et être sans pitié.
Avec et les débouchés aussi. Il faut que l'école retrouve, non. mais malheureusement, non. elle ne l'a plus, cet ascenseur social. Enfin, la méritocratie, il faut qu'on remette ça en place. Ah,
merci Mohamed, ça, merci d'avoir été avec nous, Mohamed. On va continuer la discussion avec Thierry. Thierry, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Thierry, on vient d'avoir la discussion là avec Mohamed. Vous êtes retraité cadre bancaire du côté de la Charente-Maritime. Ouais. Est-ce que la France doit choisir, oui ou non?
Oui.
Alors expliquez-nous.
Bon, eh ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mohamed juste avant. Et voilà, on parle toujours de communautarisme. Vous savez, moi, j'ai vécu en banlieue parisienne toute ma jeunesse, Dutroux, Châtenay-Malabry. Il y avait des ouvriers. C'était déjà que des familles d'ouvriers, des familles nombreuses dans des petits appartements, etc. C'était déjà une sorte de communautarisme, si on veut. Mais nous, ce qu'on avait dans l'idée, c'était de bosser à l'école, de s'en sortir et de quitter ces cités pour évoluer, pour changer. Aujourd'hui, on n'a plus l'impression que c'est cet état d'esprit. Et ça complique un peu les choses, ça, parce que... Et je veux dire, par là, on ne peut pas évoluer si on reste pigné dans sa banlieue, à ne pas bouger, à ne pas vouloir en sortir, quoi. D'ailleurs, Joël est un excellent exemple.
Thierry, aujourd'hui, qu'est-ce que vous craignez alors, puisque vous dites vous êtes dans l'équipe plutôt, oui, il faut choisir ces immigrés. Quelle est votre crainte alors?
Moi, je ne sais pas, mais quand je remonte le peu que j'y remonte sur Paris, je ne reconnais plus. Alors, Châtenay-Malabry, je ne reconnais plus du tout. J'ai plus l'impression d'être en France. À mon avis, ça ne sert à rien de faire venir tout un tas de gens comme ça, qu'on ne peut pas intégrer, qu'on ne peut pas éduquer, qu'on ne peut pas.
Mais on ne les fait pas venir.
Alors, attendez, parce que Bruno, quand vous avez dit j'ai l'impression de plus être en France, Bruno a levé les yeux au ciel. Bruno.
Oui, mais.
Ouais, c'est un peu exagéré, comme surtout Châtenay-Malabry, j'ai pas l'impression que ça devienne un ghetto, hein, faut se détendre quand même. Je pense qu'il y a des endroits qui sont peut-être pires que ça, mais après, à un moment donné.
C'est pas rassurant.
Tu as raison.
Mais moi, j'arrive pas à capter parce que, en plus, la vraie faillite, elle est de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous accueillez des gens, si vous savez pas les accueillir, Je ne donnerai jamais raison. Quelqu'un qui dit qu'il faut choisir son immigration, je ne donnerai jamais raison à cette personne-là. Pour moi, c'est impossible.
Pour toi, c'est un raciste?
Non, ça n'a rien à voir avec le racisme. Moi, je pense que c'est une erreur de logiciel. Moi, je pense à un moment donné qu'on ne peut pas choisir les gens et que l'humanité, ça fait qu'un. Et que quand les gens, ils veulent aller quelque part, ils y vont. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter. Et donc, surtout qu'en France, on a les moyens.
Allez-y, Thierry.
Et quand j'entends Bernard Arnault, qui je ne sais pas combien de milliards d'euros.
Allez-y Thierry.
Non, c'est pas du tout simple. Je pense qu'on a plus les moyens. Non, je pense qu'on a plus les moyens. Mais non, je suis désolé, on peut pas.
Avec les chèques bois, les chèques machin.
Oui, allez-y, tout allez-y. Ça, rassurez-vous, je touche rien du tout, moi. Et je paye des impôts. Alors ça, de ce côté-là, on va pas aborder ce sujet parce que c'est pas là où il faut aller. Mais bon, non, mais au bout d'un moment, je veux dire, c'est. Soit on accueille les gens dignement, donc, mais si c'est pour les laisser traîner dans la rue, comme vous disiez un petit peu plus tôt, dans les stations de métro, se droguer, etc., que les gens sont obligés de se faire accompagner par des trucs.
Oui, parce que ça, je suis d'accord avec vous, c'est un peu l'hypocrisie du discours que, pas toi Bruno, mais que ceux qui pensent comme toi nous disent « Ah, c'est génial !» Et ensuite, on les laisse dans la misère, on les laisse dormir par terre, porte de la chapelle. Mais on est content parce que, vous comprenez, on est humaniste. On est humaniste et on accueille tout le monde. Non, si tu accueilles les gens...
Merci Thierry d'avoir été dans les GG. Kevin.
Non, mais moi j'aimerais bien demander à Bruno ce qu'il a fait dans sa vie pour aider ces migrants qui zonent Porte de la Chapelle. Est-ce que tu les as accueillis chez toi ou pas? Parce qu'à t'écouter, il faut accueillir toute la misère du monde. Mais vas-y, accueille-les chez toi. Nourris-les. Et sois humaniste comme tu prétends être. Non, mais à un moment, ça, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie et c'est du populisme. À un moment donné.
Attention.
Moi, j'ai aidé à distribuer des repas. Moi, je me suis occupé d'aider. Alors, à un moment donné, dans ma vie, j'ai donné une espèce de cours de français à des gens qui ne parlaient pas français. Enfin là, j'ai essayé de faire des choses à mon humble niveau. Moi, j'ai pas les moyens de loger des gens chez moi. Par contre, moi, j'étais logé par des gens qui m'ont pris pour un immigré. J'étais logé au Sénégal. En bon tout bab, j'étais logé au Sénégal. Donc moi, je sais ce que c'est que l'accueil dans l'autre côté. Et je me dis qu'à un moment donné, tu vois, il faut savoir accepter. Après, tu peux rester en ta France blanche et ressembler
à la Roumanie. Mais ça n'a rien à voir avec une question de couleur de peau.
Quand t'es en vacances, ils nous racontaient, c'est tellement beau, ils sont tous blancs, c'est merveilleux.
Mais j'ai jamais dit ça. Je vais t'attaquer en diffamation.
On va regarder. regarder le résultat de la consultation. Je remercie Thierry et Mohamed d'avoir discuté avec nous. On va regarder, la France doit-elle choisir ses immigrés, comme le dit Madame Borne, au coup d'envoi de la discussion sur la loi sur l'immigration. Je pense qu'il n'y a pas photo, effectivement. Attention, oui ou non? Oui, voilà. Ça n'a pas bougé. 88,12.
Olivier qui me plombe, 88. Était dans un discours un peu entre les deux, tu vois.
Il a fait du en même temps.
Ouais, il a fait du en même temps. Il a tiré les gens vers les autres. Non, c'est pas bon.
C'est un infiltré.
J'ai un mot, je n'ai qu'un mot.
Oui, attends, bouge pas, il est là, attention.
Tu veux mon zizi?
Oh là.
Tu pues du cul.
Faut qu'on arrête ce truc.
Allez, Estelle Denis, s'il vous plaît.
Oui, sans transition.
On y va, ma chère Estelle.
Oui, tout à fait. Nous, on va parler de la proposition de Marine Le Pen d'abaisser la TVA de 20 à 5,5 sur l'énergie, gaz, électricité, fuel, carburant. Bonne ou mauvaise idée? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. On parlera de cette perturbation. Vous savez, le député NUPES, Aurélien Taché, il a perturbé une représentation théâtrale. Bon, il était ivre, hein, c'est vrai.
Sacré loustique.
Il s'est fait virer du théâtre. Mais les députés doivent-ils être exemplaires dans leur vie de tous les jours?
Coke, alcool, le bordel dans les théâtres, c'est bien.
Et surtout qu'il a fait référence à sa fonction de député, c'est ça le problème.
Il
est sourd, il perturbe, mais il dit attends, je suis député.
Non, le mieux, il a dit je voulais pas faire trop de bruit en applaudissant, donc j'ai applaudi juste en bougeant les mains. C'est extraordinaire. Bon. Bref, ça ce sera à 13h et puis 14h. Inflation, morosité, budget serré. Est-ce que vous allez devoir vous restreindre pour le réveillon? Dites-nous tout au 32-16.
Et nous, on se retrouve demain dans les GG, demain 9h midi avec Didier Giraud, agriculteur, Étienne Lébig, éducateur, et l'avocate Sarah Salman. N'oubliez pas les podcasts à votre disposition, bien sûr sur l'appli RMC. Et rendez-vous demain 9h.